بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، donc on va peut-être continuer une petite 20 minutes, peut-être jusqu'à minuit, pour que ce soit pas trop tard non plus pour les frères qui ont des choses à faire, etc. Et donc on retourne à l'explication de Charles Mohsen Abbad, حفظه الله تعالى, de l'explication donc du hadith de Jibril عليه السلام. Et il dit: وإخلاص العمل لله واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عمل يتقرب به إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. On a déjà parlé de ça. فإذا فقد الإخلاص لم يقبل العمل، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقول تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك في معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وإذا فقد الاتباع رد العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. C'est ce qu'on vient d'expliquer ici. رواه البخاري ومسلم في لفظ لمسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الجملة أعم من الأولى، لأنها تشمل من فعل البدعة ومحدث لها، ومن فعلها متابعا لغيره فيها. السلام لحظك بارك الله. وستأتي الإشارة إلى شيء مما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، أو الحديث الذي يلي هذا الحديث. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Mohsen Abbad, toujours dans l'explication de ce magnifique hadith, c'est très important, hadith du hadith Jibril alayhi salam. C'est que la sincérité de l'action et le suivi, ce qu'on appelle la conformité ou le suivi, de ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sont tous deux ce qu'impliquent ces attestations. La ilaha illallah et Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout acte d'adoration qui est pratiqué se doit d'être pratiqué de manière sincère pour Allah et conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si la sincérité est absente, alors l'acte d'adoration n'est pas accepté. Et c'est en raison de la parole d'Allah, dont la traduction du sens est: nous avons considéré leurs œuvres et nous les avons réduites en poussière éparpillée. Surat al-Furqan, verset 23. Et la parole d'Allah dans le hadith Qudsi: je suis celui qui se passe le plus d'associé, celui qui fait un acte d'adoration dans lequel il est associé à moi autre que moi, je le délaisserai lui et son association. Rapporté par Muslim, numéro 2985. Maintenant, on a parlé de la sincérité quand elle est absente. Maintenant, l'autre condition, et c'est le suivi ou la conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est absente, l'acte d'adoration n'est également pas accepté. Et c'est en raison de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: quiconque invente. Et on a dit qu'il y a une autre version du hadith qui dit: quiconque fait ou met en application ou applique, comme on va le voir dans un instant, inchallah. Quiconque invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, son action sera rejetée. Rapporté par le Bukhari, 2697, et Muslim, 1718. Et donc c'est un hadith qu'on appelle Muttafaqun Alayh. Il y en a plein qui veulent mettre des chibouettes, des doigts, le hadith est daïf. Un hadith est dans Bukhari et Muslim. Et dans une version rapportée par Muslim: quiconque pratique, le premier c'est quiconque invente, et là c'est quiconque pratique un acte d'adoration qui ne fait pas partie de notre religion, son action sera rejetée. Cette formulation, la dernière, quiconque pratique, est plus générale que la première, car l'englobe celui qui innove et celui qui pratique ensuite l'innovation. Ensuite, Cheikh il dit, sixième point tiré de ce hadith, قوله قال صدقت فعجبنا له يسأله يصدقه ووجه التعجب أن الغالب على السائل كونه غير عالم بالجواب فهو يسأل ليصل إلى الجواب ومثله لا يقول المسؤول إذا أجابه صدقت لأن السائل إذا صدق المسؤول دل على أن عنده جوابا من قبل ولهذا تعجب الصحابة من هذا التصديق من هذا السائل الغريب. Sixième point tiré de ce hadith. Sa parole, c'est-à-dire la parole de Jibril عليه السلام, ou plutôt la parole de Omar qui rapporte la parole de Jibril, il dit: tu dis vrai. Nous fûmes alors surpris qu'il le questionne et puis lui donne raison. La raison de cet étonnement, pourquoi ils sont étonnés? Eh bien, réside dans le fait qu'en général, celui qui pose la question n'en connaît pas la réponse. Il demande donc afin d'obtenir une réponse. Il ne dit donc pas à celui qui questionne lorsqu'il lui répond: tu as dit vrai. Car si celui qui questionne donne raison à celui qui est questionné, cela indique qu'il avait déjà la réponse avant de poser la question. Et c'est pour cela que les compagnons furent surpris que cet étranger pose des questions, puis donne ensuite raison à celui qui est questionné. Septième point, je ne sais pas si on va le terminer aujourd'hui parce que c'est un des plus longs, si pas le plus long, et c'est ce qui concerne l'iman. On a parlé de l'islam maintenant. Et maintenant c'est l'iman. قوله قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر وخيره وشره. C'est pour ça qu'il a rapporté ce hadith par rapport au qadar. هذا الجواب مشتمل على أركان الإيمان الستة. وأول هذه الأركان الإيمان بالله. Je me rappelle une petite histoire qui arrivait, le directeur de l'école où je travaille, يعني c'est Salafi School, l'école Salafi de Birmingham, une école primaire. Le directeur s'est converti en anglais. Et Zallah Khairan, il va beaucoup dans les écoles de Koufar, il fait da'wah. Il a des échanges avec eux, etc. Il prend son projecteur, il va expliquer c'est quoi l'islam, etc. Dans les écoles de Koufar, etc. Et un jour, il y a la sous-directrice, c'était une musulmane. Et il fait une projection à tous les enfants de l'école et à tout le personnel de l'école sur c'est quoi les six piliers de la foi. Et alors, la réponse de... je crois qu'il y en avait cinq. Je crois qu'il y avait cinq piliers en islam. Il y a des musulmans, ils ne connaissent pas les bases de leur religion, il y a le frère, il m'a dit ça, regarde, il m'a dit, c'est une musulmane, hein? Yani, elle n'a pas compris. Elle ne sait pas qu'il y a six piliers dans la foi. Elle ne sait même pas c'est quoi la foi, elle ne sait même pas qu'il y a six piliers, etc. Yani, il y a des notions de fondamentales, qui rentrent dans le wajib à chaque musulman. Yani, c'est le fondamental, ça. Hein? Et si c'est un anglais converti qui lui fait da'wah, qui va lui faire da'wah, Zallah. Hein? On a dit quoi que الأركان الإيمان ستة وأول هذه الأركان الإيمان بالله هو أساس للإيمان بكل ما يجب الإيمان به ولهذا أضيف إليه الملائكة والكتب والرسل ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن ببقية الأركان والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده وربوبيته أو بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأنه سبحانه وتعالى متصف بكل كمال يليق به سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص فيجب توحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. Sa parole, informe-moi sur la foi, l'iman. Il répondit que tu crois en Allah et en ses anges et en ses livres et en ses envoyés et au jour dernier et que tu crois en la prédestination, son bien et son mal. Cette réponse comprend les six piliers de la foi, après les cinq piliers de l'islam qu'on a déjà vu. On a vu c'est quoi l'islam et la foi, hein, les iman. On a vu que quand ils sont cités séparément, ils ont quoi? Ils ont le même sens. Et quand ils sont cités conjointement, ils ont un sens différent. Cette réponse comprend les six piliers de la foi, dont le premier est de croire en Allah. Et c'est par cela qu'il a commencé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la base de la croyance en tout ce que l'on est obligé de croire. Et c'est pour cela qu'il a été corrélé, hein, si vous voulez aller voir à l'époque là, la grammaire française, une conjonction de coordination, hein, et. C'est-à-dire que tout le reste, c'est lié à ce qui est, hein, à la croyance. Que tu crois en Allah, etc. Et c'est pour cela qu'il a été corrélé la foi aux anges et aux livres et aux envoyés. Celui qui ne croit pas en Allah, ne croit pas au reste des piliers de la foi. La foi en Allah comprend la foi en son existence, et en sa seigneurie, et en sa divinité, et en ses noms, et ses attributs, et qu'Allah a tous les attributs de perfection qui lui conviennent, subhanahu wa ta'ala, exempté de tout défaut, subhanahu wa ta'ala. Cheikh, il dit, il est donc obligatoire de professer son unicité dans sa seigneurie, et sa divinité, et ses noms, et ses attributs. Est-ce que les ulémas appellent Aqsam al-Tawhid al-Thalatha, les trois branches ou les trois catégories d'unicité. Tawhid al-Uluhiyya, al-Rububiyya ou al-Asma al-Sifat. Pas quatre, trois. Trois. Tawhid l'unicité, al-Uluhiyya, d'adoration, ou de divinité, Asma al-Sifat et al-Rububiyya. Alors, il y a des gens qui essaient de mettre des doutes par rapport à ça. Ouais, mais d'où vous amenez, c'est ça, il n'y a pas de preuve là-dessus, etc. Mais ils ont dit, lisez le Coran, vous allez voir que le Coran et la Sunna, vous allez voir que les catégories ne sortent pas de ces trois catégories-là. C'est tout. Les ulama, ils ont du ilm. Ils savent ce qu'ils disent. Hein? On a dit quoi? Qu'il est donc obligatoire de professer son unicité dans sa seigneurie, Al-Rububiyya est dans sa divinité l'Uluya et ses noms, ses attributs, l'asma ou sifat. L'unicité de seigneurie, Cheikh il dit, wa tawhid, tawhiduhu bi rububiyyatihi al-iqrar, bi annahu wahidun fi af'alihi, la sharika lahu fiha, kal khalqi wal razqi wal ihya wal imata. Alors ici, vous avez dit, j'ai dit al-razq, j'ai pas dit rizq. Pourquoi? Hein? Parce que razq, c'est l'action, et rizq, c'est ce qui est donné. والرزق والإحياء والإماتة والتدبير الأمور وتصرف الكون وغير ذلك مما يتعلق بربوبيته وتوحيد الألوهية توحيده بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغيرها من أنواع العبادة التي يجب إفراده بها فلا يصرف منها شيء لغيره ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فضلا عما سواهما شيخ الدين. L'unicité de seigneurie, c'est quoi? Parce que maintenant, il convient de connaître ces trois. On parle de l'unicité, de la base de notre religion. L'unicité de seigneurie est d'attester qu'il est unique, subhanahu wa ta'ala, dans ses actes. Subhanahu wa ta'ala. Et qu'il n'y a, aucun associé. Comme dans la création et l'attribution de subsistance, ce qu'on appelait al-razq. C'est-à-dire qu'il donne le rizq. Et le fait de donner la vie et de faire mourir et dans l'administration des choses et dans la gestion de l'univers. Et d'autres choses encore liées à sa seigneurie, subhanahu wa ta'ala. L'unicité de divinité maintenant, la deuxième, consiste en son unicité dans les actes de ses serviteurs. L'imploration d'aide, ce qu'on appelle isti'ana. Isti'ana, tu dis, toi, l'imam il vient de lire, « Iyaka na'budu, iyaka nasta'in, ay tasta'in billah, wahda. » Suivez ou pas? Il est presque minuit, je sais, mais hein? Jusqu'au bout, Inch'Allah. C'est quoi l'isti'ana? Il faut savoir c'est quoi. Le ulama dit c'est talabul aoun. C'est le fait de demander de l'aide. Et c'est une ibada. Hein? Parmi les juhala qui rendent mécréant tout le monde, un jour il venait chez moi, parce qu'avant j'avais une librairie, etc. en Belgique, et chez moi il voulait me débattre. Je dis, achi, va prendre ta religion. Achi. Hein? Ouais, j'ai dit, koufa, achi, va prendre ta religion. Achi. Je dis, achi, je te pose une question. Une question, une simple question. Un enfant, il connaît la réponse. Je suis après, je parle avec toi. Je dis, je suis en train de décharger mon véhicule. Et je te demande de l'aide. C'est du shirk ou pas? Il m'a dit oui. Hein? Et après, il va que faire les gens. Je lui dis, t'as rien compris, mon frère. Je lui dis, après, les ulama, ils disent que tu demandes de l'aide en dehors d'Allah, dans ce qu'il n'y a que Allah qui est capable de faire. C'est ça le shirk. T'es pas capable, t'es à côté de moi, t'es vivant, t'es présent, tu m'entends, tu peux aider les cartons, tu peux passer les cartons quand t'es pas capable. Donc, talab l'aoun, c'est quoi? Isti'ana, c'est talab l'aoun, que tu demandes de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Iyaka na'budu, iyaka nasta'in. Et les ulama, ils ont dit, iyaka, c'est avant na'budu, et iyaka, c'est avant nasta'in. Wa taqdiru, wa taqdimu, ma haqhu ta'khir, yufidu l'hasra, les ulama, ils disent. Suivez ou pas? Toi seul nous adorons. Allah n'a pas dit nous adorons toi seul. C'est pas pour rien, en arabe c'est un sens. C'est quand ce qui doit être après est mis avant, ça a le sens de restriction. C'est-à-dire, toi et toi seul nous adorons. Vous comprenez ça ou pas? Si par exemple j'ai dit Ra'aytu Muhammadan. J'ai vu Muhammad en arabe. Ça veut dire Mohamed, j'ai vu personne d'autre avec lui. Je peux avoir vu d'autres avec lui, etc. Mais si je dis Mohamed en ra'aytu, ça veut dire quoi? J'ai vu Mohamed et j'ai vu personne d'autre. C'est ça la langue arabe. Vous comprenez pourquoi on dit hein? Et tu dis la langue arabe. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Et l'isti'ana c'est une ibada. C'est juste ou pas? Pourquoi alors on dit toi seul nous adorons et de toi seul nous implorons l'aide. Pourquoi? Pourquoi? Alors que l'isti'ana c'est une ibada. Hein? Parce que tu as besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour l'adorer subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est une longue discussion. Regardez Tafsir al-Fatiha, Hajar al-Fawzi, notre ulama, etc. Vous allez. D'ailleurs, on a traduit. Vous connaissez Mohamed Amin Shinqiti, rahimahullah, le grand mufassir du Coran. On a traduit sur notre site complet le Tafsir al-Fatiha de lui en français. On dit quoi ici? L'isti'ana, c'est le fait de demander l'aide. L'imploration de secours, l'istighatha. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Alors maintenant, peut-être un frère va dire, attends, c'est quoi la différence entre isti'ana et isti'gatha dans la langue arabe? Il y a une différence. Isti'ana, tu demandes de l'aide à Allah, d'accord? Et isti'gatha, tu demandes de l'aide, mais dans le sens secours, dans une situation de détresse. Fi hal shidda. C'est ça la différence que les ulama disent. L'immolation, dabh, et les vœux dont on a parlé tout à l'heure, nadr, et d'autres encore parmi les actes d'adoration qui doivent tous être voués de manière exclusive à Allah Azzawajal. C'est-à-dire, fais attention. Si tu voues l'un de ces actes d'adoration ou d'autres actes d'adoration à autre qu'Allah, là tu rentres dans la grande association qui fait sortir de l'islam. Wal'iyadhu billah. Chéri dit, il est interdit d'en vouer quoi que ce soit autre que lui, et ce même si c'est un ange rapproché ou un prophète envoyé. Nous, on n'adore pas les prophètes, ni les messagers. On les suit. Donc, il dit, chéri, et encore moins à d'autres. Il y a des gens, ils adorent des gens qui ne sont même pas des prophètes. Chéri, il continue en disant, وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله دون تكييف أو تمثيل ودون تحريف أو تأويل أو تعطيل وتنزيه عن كل ما لا يليق به كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فجمع في هذه الآية بين الإثبات والتنزيه فالإثبات في قوله هو السميع البصير والتنزيه في قوله ليس كمثله شيء فله سبحانه وتعالى سمع لك الأسماء وبصر لك الأبصار وهكذا يقال في كل ما ثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات. Quant à l'unicité dans ses noms et ses attributs subhanahu wa ta'ala, c'est d'affirmer tout ce qu'il sait affirmer à lui-même et lui affirmer son messager sallallahu alayhi wa sallam comme nom et attribut de la manière qui convient à sa perfection et à sa majestuosité sans interrogation sur le comment ni ressemblance à ses créatures. Allah t'a dit qu'il voit, il voit. Comment? Allahu a'lam, tu ne sais pas. Il voit comme il convient à lui-même, subhanahu wa ta'ala, de voir. Donc tu lui attribues ce qu'il s'attribue. Tu lui attribues la vue, tu lui attribues lui. Voilà, qui n'a quoi? Pas comme ses créatures. Comment? On a dit quoi? Allahu a'lam. Attention. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé avec l'imam Malik, rahimahullah? Quand... Et quelqu'un il est rentré, il a demandé sur Ar-Rahman al-Arshi Stawa. Le tout miséricordieux, sur le trône il s'est établi. Comment il s'est établi? L'imam Malik il s'est tué pendant longtemps, il a commencé à transpirer. Cette question elle n'est pas connue. D'où tu viens avec cette question toi? Il lui a dit, regardez la réponse d'Aïma, c'est devenu une règle chez les ulama. L'imam Malik, rahimahullah. Et où sont ceux qui disent Maliki par rapport à ça? Dans les certains pays du Maghreb, ils ont un aqida qui... diverge de l'aqd de l'imam Malik. Il a dit quoi? L'istiwa ou ma'loum. Ou al kif ou majhoul. Et puis? Ou al su'al ou anhu bid'a. Et puis il a demandé qu'on le fasse sortir. Fa inni araka mubtadi'. Regardez, il a dit, le tout miséricordieux sur le trône, il s'est établi. Comment il s'est établi? Ah, voilà, c'est ça que j'avais oublié. L'iman bihwajib, barakallahu fi. C'est quoi? C'est que, il a dit, l'établissement est connu. Et le comment n'est pas connu. D'accord? Et le fait d'y croire est obligatoire. Allah, il est dans le Coran, tu crois. Comment? Allah, Allah, il t'a dit comment? Comment tu veux savoir? Allah, il t'a dit comment? Non, le professeur, il t'a dit comment? Tais-toi. Là, on rentre dans l'aqidah. Dans la croyance. Et à la fin, il a dit, et le fait de questionner là-dessus est une bid'a. Faites-le sortir parce que je vois que c'est quelqu'un parmi les gens de l'innovation. On dit, ah, il est dur. Non, sunna. Tu viens que c'est une question innovée. Comment? Pourquoi tu demandes comment, etc. Sahaba, ils n'ont pas demandé comment. Ah, mais le Nabi, il est de Rabbina.
سمعنا وطعنا للصحابة يبخوني سكو البخوفات سكو الله عزيز القرآن البخوفات صلى الله عليه وسلم يديزي ايز افيرمي سكو الله عزيز افيرمي لي-مام سكو البخوفات صلى الله عليه وسلم يفيرمي كونو ياتريبي ils ont jamais posé ce genre de questions. Toi, tu viens, tu commences à poser ce genre de questions. On a dit quoi? Que sans altération du sens, ni négation, ni fausse interprétation. Et en les déclarant exemple de tout ce qui ne lui convient pas. Comme la traduction du sens de la parole d'Allah dit, rien ne lui ressemble et c'est lui qui entend et voit tout. Surat Shura, verset 11. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a regroupé entre l'affirmation et l'exemption de tout défaut. L'affirmation dans « et celui qui entend, il voit tout », c'est-à-dire qu'Allah il s'est affirmé à lui-même qu'il voit et il entend. Je veux dire, non, il ne voit pas, il n'entend pas. Il y a des gens qui disent ça. Hein? Allah il dit qu'il voit et il entend, toi tu dis non. Subhanallah. Hein? On ne va pas rentrer dans le tafsir, etc. Sur l'Athémin, il a bien expliqué ce genre, même la différence. Entre Timsil, Tishbih, c'est quoi Ta'til, etc. On ne veut pas entrer trop dans les détails, etc. Retournez à l'Aqid al-Wasitiyah sur l'Athim, il explique bien ce genre de définition-là, etc. Il y a un Talib al-Ilm, qu'est-ce qu'il a fait? Un gros volume, tous les stilahats de Charles al-Athim dans l'Aqid, dans tous ses livres, il les a compilés, les a mis par ordre alphabétique. Hein? Et, subhanallah, je n'y ai pas pensé, mais j'avais pris, dans un des cours que j'ai fait, je crois que c'était à Nice, j'avais pris, en fait, certains points vite fait pour ne pas rentrer dans les détails, mais au moins qu'ils sachent quoi la différence entre. Timsil et Teshbih, etc. Et c'est quoi Ta'til, etc. J'avais pris ce dictionnaire-là pour qu'il voit quelqu'un, je vais donner les références. En tout cas, regarde Cheikh Al-Uthaymeen, Cheikh Al-Wasitiyah, etc. Et il dit quoi? Sans altération du sens, ni négation, ni fausse interprétation, et en le déclarant exemple de tout ce qui ne lui convient pas, subhanahu wa ta'ala. Comme la traduction du sens de la parole d'Allah dit, rien ne lui ressemble, c'est lui qui entend et voit tout. Dans ce verset, il a regroupé, subhanahu wa ta'ala, entre l'affirmation et l'exemption de tout défaut, l'affirmation dans « et c'est lui qui entend et voit tout », et l'exemption dans « rien ne lui ressemble ». C'est facile. Tu lui affirmes ce qui est affirmé, hein, et tu exemples de toute ressemblance aux créatures. Là, c'est fini. Comment Allah Alam? Je sais pas, Allah Alam. Pourquoi tu veux savoir, Aslan? Pourquoi? Hein? On va s'arrêter là-dessus, parce qu'on a dit minuit, il est minuit pile. Wa jazakum Allahu khairan, et... Je laisse la parole être responsable pour qu'il vous donne le reste du programme, etc. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.